Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, pétant le feu, le teint vif, et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent. Mou, fripé, dégarni.
CO2, mon amour.
Un quart de pain, s'il vous plaît. Quelle sorte?
Avec de la mie à l'intérieur.
Denis Chesson.
Sésame, sarrasin, blé dur, quatre céréales. Prends un Big Mac et un Coca, connasse.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec à la technique aujourd'hui Kevin Pellot et Pauline Laverdure, sans oublier à la régie Elisabeth Scotto et Camille Blanès et notre collaboratrice, notre assistante, Xavier Pestugia, réalise l'émission. Alors cette semaine, mercredi, ça ne vous a pas échappé. Mercredi, donc, température du studio télé, c'était de 19 degrés. Donc, consensus, un espoir, donc, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et sinon, l'environnement, rien. 7 ans qu'une loi est passée, un petit peu inaperçue comme pas mal d'autres, sur le thème de la pollution lumineuse qui devait soulager nos factures municipales, guérir nos chouettes de leurs insomnies, nous rendre les splendeurs de la Voie lactée et l'ombre propice aux chauves-souris. Alors ça a été prévu par le Grenelle de l'environnement, cette COP21 du pouvoir des fleurs, même s'il y avait quand même des choses intéressantes à prendre dedans, véritablement, où chacun était prêt à s'embrasser sur la bouche avec la langue, mais allez donc vous rouler une pelle, princesse, avec des langues de bois. La seule nuit noire, profonde, obscure et ténébreuse à laquelle nous aurons droit serait-elle celle de nos illusions perdues? Alors toujours pas de décret d'application, hein, alors qu'il y en a beaucoup qui sortent actuellement. La Ségolène Royal, là sur la fin, hop, il y a beaucoup de décrets. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer. Toujours pas vu le jour, le noir total, mais pas celui qu'on attendait, comme on attend chaque année le Père Noël, les hirondelles. Et pourtant, elles sont arrivées, nos petites voyageuses à Cublanc, oui, en chalosse et ailleurs, nos belles rustiques, en longs costumes de soirée, que de pieds et foulards cramoisis, pour partager une fois de plus notre printemps. Mais en si petit nombre encore, et pour trouver combien des tables robotisées, de granges détruites, de façades refaites. Alors partager le printemps, oui, parfois en craignant le pire, hein, comme les conférences de presse du grand butor de l'Arkansas à crête mordorée, qui niche à grand bruit dans la belle Maison Blanche. Il faudrait qu'avec sagesse, on s'assoie quand même enfin en paix autour d'une table pour s'écouter un peu, pour prendre les avis de chacun, pour régler le vrai problème, celui dont on ne parle que pour en sourire avec un air entendu, le sort de notre si peu verte planète à la remorque de l'économie, le sort du vivant dont nos existences d'humains en dépend, rien que ça. Et nous ne sommes pas contre un bon verre de Gaillac, je me rapproche des Landes évidemment d'Alain Ducasse ou de ce que vous voulez, mais sans pesticides, pour assurer une douce ambiance conviviale, celle que l'on retrouve toujours en fin de banquet républicain, le seul endroit où réellement les vraies décisions se prennent. Alors en attendant, les débauches lumineuses des nuits de Las Vegas illuminent le désert des cerveaux ravagés et frustrés de l'hyperconsommation. Et le fond des urnes va-t-il éteindre l'avenir d'un joli brasseur obscurantiste ou laisser une autre lumière faire son chemin? Ouais, du bateau, y a-t-il un cap, un espoir collectif, un mirage, un chemin pour les enfants à venir? Alors s'il vous plaît, rallumez les étoiles, c'est ce que l'on va essayer de faire dans cette émission, parce que c'est possible. Alors là, j'ai une transition toute trouvée, parce que des étoiles, j'en ai là. Je sais pas combien, cher Alain Ducasse. Bonjour Alain Ducasse.
Bonjour.
Je sais pas combien d'étoiles au total, parce qu'on va pas faire le compte. Enfin, donc, on vous connaît parce que vous êtes cuisinier, homme d'affaires avisé, semeur de vocation, créateur d'emplois, une très belle ambition, un sacré caractère, mais je pense qu'il en faut pour faire tout ce que vous avez fait. Manger est un acte citoyen que vous avez écrit avec Christian Regoupi aux éditions des Liens qui Libèrent. J'ai presque envie de vous demander d'abord, effectivement, de quel coin de Chalosse où vous êtes originaire, parce que est-ce que c'est Montfort, c'est Agetmaux,
c'est entre Amoux et Pomarez. Donc c'est entre Agetmaux et Montfort.
D'accord.
Ça colle le Tursan, entre le Tursan et le Béarn.
Et quand on dit Amoux, c'est sans air, hein, c'est
oui,
ça.
Sans air.
Voilà. Et là, il y avait quand même votre grand-mère délicieuse. D'ailleurs, dans votre ouvrage, elle nous donne la très jolie lettre qu'elle vous avait écrite lorsque vous étiez donc apprenti, que vous partiez donc à commencer en cuisine du foie gras. Et j'allais dire, quel message en fait cette grand-mère vous faisait passer à travers sa cuisine?
Message de l'authenticité des produits du jardin, où il n'y avait pas de pesticides, et pour déjeuner vers 11h30, on disait qu'est-ce qu'on mange. Et si on était il y a 50 ans, un demi-siècle déjà, on s'y rendait et on regardait si les petits pois, les fèves, les oignons nouveaux, les pommes de terre étaient prêtes à être cuisinées avec un bout de lard fondu dans une cocotte, et c'était le déjeuner. Vous voyez, nous étions déjà presque végétariens.
Et lorsque vous preniez donc de la salade, il y avait ce
blanc.
Ce petit jus délicieux.
Oui, parce que quand on coupe une laitue toute fraîche, elle a ce côté laiteux qui coule, qui est unique. Et si on ne l'a pas vu, on ne peut pas le deviner, puisque ce n'est pas dans les étals de supermarché aujourd'hui qu'on va les trouver.
Oui, alors bon, on va laisser, on va dire, toute la cuisine à notre ami François-Régis Gaudry dans son émission, donc demain. Ce qui nous intéresse bien, c'est vraiment de faire le lien entre la gastronomie et l'environnement. La gastronomie peut-elle changer de monde? Et ça, je ne sais pas, mais elle peut au moins peut-être l'améliorer.
En tout cas, il faut décider de consommer différemment afin que tous les individus qui habitent cette planète aujourd'hui et ceux qui vont l'habiter demain puissent se nourrir à leur faim. Et pour cela, il faut changer les habitudes alimentaires, il faut cesser de gaspiller d'abord, il faut consommer différemment des produits saisonniers, consommer moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, et quand elles sont parfaitement identifiées, il faut que le poisson soit de pêche durable, en tout cas respectueux de la saisonnalité des périodes de pêche. Et puis très sincèrement, un très beau maquereau, une très belle sardine avec quelques pois chiches bio, ça suffit largement à satisfaire les besoins quotidiens de chaque individu qui habite cette planète. Alors je suis pas un gourou qui dit il faut pas manger de viande, il faut pas manger de volaille. Il vaut mieux manger une bonne volaille, une très bonne volaille une fois par mois, que de manger de la mauvaise volaille importée qui vient du Brésil et qui a voyagé en avion.
Et la volaille, c'est à peu près 35% aujourd'hui de la consommation de viande en général. Enfin, c'est donc cette viande blanche, mais qui représente 35% dans le monde. Donc, c'est pas neutre du tout. Quoi.
Mais il faut manger mieux, il faut manger moins, et ça coûte pas plus cher.
Alors, voilà, donc ça on va en parler, parce qu'évidemment, des gens vous opposer vont vous dire tout de suite, bah oui, attendez, vous êtes gentil, mais enfin, 3 étoiles, etc. Et tout. Donc, comment on fait dans le quotidien? Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment, quand on est dans une cantine avec 1,30€, 1,50€, que les parents ne sont pas là, qu'il y a du bruit, etc. Comment on arrive à nourrir tout le monde? Parce que c'est un peu ça aussi.
Il faut que les commissions de parents d'élèves s'habituent à imaginer que de se nourrir différemment est important. Il vaut mieux que les enfants aient très peu d'une bonne volaille et qu'ils n'en aient que 2 fois par semaine de la protéine animale, mais qu'elle soit bonne et qu'on sache où elle a été levée, comment elle a été assaisonnée. Et c'est parce que je fais de l'audit de la restauration collective, de la restauration scolaire, de la restauration pour les personnes âgées, pour les restaurants universitaires. Depuis plus de 10 ans, j'ai une entreprise qui fait ça. Je l'ai fait moi d'abord, donc je sais de quoi je parle parce que j'ai les mains dedans.
C'est quand même 3 milliards de repas tous les ans, hein, servis. Si on met bout à bout, on va dire à peu près quoi, 75 000 restaurants collectifs.
Oui, mais c'est une décision et c'est une orientation que chacun doit préempter comme étant bien pour la santé. Et ça commence par la santé des enfants, parce qu'ils vont prendre des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes. Il faut que les enfants consomment différemment, mais il faut pas faire que le dire.
Pour vous, le levier, pardonnez-moi, c'est quoi? C'est les parents d'élèves?
C'est les parents d'élèves, c'est les parents en général, c'est la prise de conscience de se nourrir aujourd'hui.
Donc ça veut dire d'aller secouer ces établissements, parce que derrière tout ça, vous avez aussi quand même des grandes filières et l'agro-industrie qui sont là.
Non, mais on ne peut pas s'opposer. Ils sont au bout d'un système, ils n'ont pas les solutions. Donc je pense que on doit pouvoir parler et réorienter. J'étais récemment dans un hypermarché, un des plus gros hypermarchés d'Europe. Très sincèrement, il y avait dans les chariots entre 5 et 10% de matière plastique et d'emballage de ces produits. Et on sait que 10 à 20%, et c'est pas une question de niveau de vie, allait terminer à la poubelle. Je parlais pas des emballages, je parle de la nourriture qu'il y avait dans les emballages. Donc tout ça est à recycler. J'étais la semaine dernière dans une usine non pas de recyclage, mais de tri de déchets. Oui. C'est des mètres cubes de plastique dont on sait la difficulté qu'on a à les traiter, des mètres cubes de produits alimentaires maltraités, des mètres cubes de canettes je vais pas citer les marques, mais de canettes en aluminium. C'est hallucinant.
C'est un truc de Shadok.
L'emballage est un vrai problème. Donc ça coûte de l'argent. Enfin, c'est aussi pas bon pour la santé.
Non,
c'est pas bon pour la planète.
C'est aussi un gros business. Et ça, d'ailleurs, on y reviendra dans une émission future sur les déchets. On fera un petit point. Écoutez, on a plein de choses à mettre sur la table. Hein. C'est, c'est voilà,
il y a c'est beaucoup de choses.
Mais oui, absolument. Et oui, allons-y, tirons le fil de l'assiette. Et donc c'est le fil aussi de notre histoire alimentaire. Donc bienvenue encore donc dans cette émission avec Alain Ducasse et puis donc Gilles Van Der Potten qui va aussi intervenir. Voici connaît tout là. Oui. On l'annonce pas. France Inter. Hop.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. La soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval.
Apporter doubichou.
Des quoi?
Ce sont les fameux doubichou de Sofia.
Ah oui. Ah, c'est très bon.
CO2, mon amour.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Avec Denis Chessou.
C'est une fabrication artisanale.
Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi.
Oui, 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 c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Sur France Inter.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Ah, vous le connaissez par cœur, nous aussi, mais on ne s'en lasse pas, vous voyez, c'est ça, c'est pas la pédagogie qui passe par la répétition, mais ça nous fait du bien quand même, les Dobichou. Alors, bienvenue en France, deuxième marché mondial du leader des fast-food McCanard, mais premier aussi exportateur de grands chefs étoilés, disons-le. Bienvenue dans un monde où Trump met à la poubelle le programme alimentaire de Michelle Obama, ça c'est tout récent, et vive les obèses et les diabétiques de demain. Bienvenue dans un monde où 26% des aliments conditionnés dans le monde sont fabriqués par 10 entreprises. Alors, comme l'a déjà dit plein de fois Pierre Rabhi, avant de passer à table, il ne faut plus se souhaiter bon appétit, mais bonne chance. Et à côté de ça, il y a quand même des tas de choses qui s'opèrent. Mais auparavant, quand même, avec vous Alain Ducasse, vous êtes parti là-dessus, ça nous va assez bien dans l'émission. Les limites de l'agroalimentaire industriel aujourd'hui.
C'est toujours plus gras, toujours plus d'addiction, toujours plus de publicité pour des résultats qui sont de plus en plus petits. Donc je pense qu'on est au bout d'un système. Non, c'est pas tout de s'opposer, c'est pas tout de faire des pétitions contre. Je pense qu'il faut faire avec, il faut arrêter cette surenchère, il faut consommer mieux, il faut consommer moins, il faut arrêter d'emballer. Voilà, donc il faut que le citoyen parle à l'industriel. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.
Et qu'il vote avec sa carte bleue.
Oui, bien sûr, mais c'est l'acte de manger, c'est l'acte de voter. Oui. La manière dont on mange dépend de l'avenir de la planète et c'est un signe citoyen d'y aller et puis de montrer qu'on peut et qu'on doit consommer différemment.
Quand on parlait tout à l'heure du gaspillage, 1,3 milliard de tonnes, ça ne dit pas grand-chose et en même temps, c'est des sommes folles. Quand on dit 2 kilos, on comprend mieux, sont jetées chaque année. Ça, c'est les chiffres de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ce qui représente un tiers de la production mondiale. C'est complètement dément. Et ces multinationales ne savent pas exactement produire sans altérer notre biodiversité aujourd'hui. Enfin, vous le dites très clairement. Enfin.
Ils détruisent plus qu'ils ne produisent. Donc, et sur cette planète, il y a ceux qui n'ont pas accès à une alimentation quotidienne nécessaire pour le corps.
Ce qu'on appelle des sous-nutris, c'est un milliard de crèves la faim.
Hein, oui, il y a 1 milliard de surnourris. Donc c'est juste une question de répartition. Mais ça veut dire que les surnourris, ils doivent consommer différemment.
Alors, lorsque l'on regarde aussi votre ouvrage, il y a quand même un moment assez savoureux aussi sur les réglementations européennes qui imposent quand même parfois un cahier des charges complètement dément pour les haricots verts du Kenya, par exemple. Rappelez-nous quand même de quoi il s'agit. Parce que...
Ah, mais ils sont tellement calibrés qu'il y en a un tiers qui reste au Kenya et qui sont jetés avant même d'être transportés avec la chance d'être mangés puisqu'ils ne sont pas dans les normes de taille, d'épaisseur. Mais c'est pareil sur une
ils
pomme
qui est... Écoqueté et calibré à 8 cm. Le moindre défaut les disqualifie.
Donc... Tout ça va changer oui. Parce que c'est acté. L'individu, l'être humain, quand il faut se rappeler la vache folle, quand les farines de poisson nourrissait les bœufs et que les farines animales nourrissaient les poissons, finalement on est arrivé à ce que l'on sait et finalement on a changé, on a compris, mais il faut aller jusqu'au bout et là nous sommes au bout. Donc il va bien falloir se parler pour prendre des solutions.
Alors on va voir aussi avec vous comment vous faites, parce que vous êtes aussi un meneur, hein, donc vous êtes un bon, j'allais dire, puisque vous êtes sur
faut
une...
fédérer.
Faut fédérer, vous êtes un peu un border collet, un peu à l'abri, comme un chien que vous connaissez bien chez vous dans les Landes.
Il ne faut pas fédérer contre, il faut fédérer pour travailler avec, en fait, des solutions, oui. Il ne faut pas les trouver. C'est pas en faisant des pétitions qu'on va les trouver, c'est en travaillant.
Alors, ça en fait, c'est aussi un discours que vous connaissez très très bien, Gilles Van Der Potten, parce que je le rappelle, depuis, vous avez lancé Reporter d'Espoir, vous êtes le directeur de Reporter d'Espoir, vous êtes un garçon de terrain, et là vous avez sorti chez Artaud la France des solutions, ces citoyens qui bâtissent l'avenir. L'état d'esprit, quel est-il, globalement?
L'état d'esprit, il est le même qu'Alain Ducasse, c'est reconnaître qu'il y a des difficultés, des gros problèmes, notamment écologiques, des enjeux énormes, mais qu'il faut lutter contre, il faut y remédier, et donc proposer des alternatives. Et donc c'est ce couple opportunité-menace, problème-solution qui nous intéresse. Et quand on va sur le terrain, qu'on parcourt la France, on est étonné par la richesse des initiatives. Il y a des citoyens, des associations, des entrepreneurs qui prennent les devants, qui disent évidemment on ne peut plus continuer comme avant. Il y a un modèle à bout de souffle qu'Alain Ducasse décrit très bien dans son livre. Sur l'agriculture par exemple, on sait qu'il faut consommer autrement, ça veut dire produire autrement. Vous évoquez par exemple la permaculture avec la ferme du Bec-et-Loin qui a été célébrée par le film
demain. Oui,
c'est un grand classique.
Ah, oui,
il y en a d'autres, il y a un réseau.
Ils font école.
Et il y a ce réseau Ferme d'Avenir qui a été lancé par Maxime de Rostolan. C'est une trentaine de fermes aujourd'hui qui s'engagent dans la transition vers la permaculture et l'agroécologie. Et ils ont des solutions. Ils montrent que sur 1000 mètres carrés de maraîchage, on peut produire l'équivalent qu'on produirait sur 1 hectare. Avec des techniques respectueuses de l'environnement, avec
c'est-à-dire
moins d'intrants
en fait,
ou pas d'intrants.
On va dire sans faire des grands mots, mais qui partent des fonctionnalités qui sont offertes par le vivant, et puis ils les adaptent aux besoins de production. Et donc, cette affaire-là, parce que donc, Maxime de Rosselon, qui était venu aussi à ce micro, est devenu paysan maraîcher, donc il a passé son brevet d'exploitation agricole, donc il connaît bien cette affaire-là. Il s'agit en fait d'évaluer, à travers l'expérimentation, la viabilité économique de cette affaire aussi.
Tout à fait, ça fait 3 ans, ils sont en train de le démontrer. Alors, les récoltes en 2016 n'ont pas été fameuses, mais pour tout le monde. Là, il s'agit d'essaimer ce modèle, de l'expérimenter à grande échelle. On est à plus d'une cinquantaine de micro-fermes d'avenir aujourd'hui. Et donc, ça passe par des aides à l'installation, ça passe par des formations, par un concours qui les ont lancés il y a 2 ans maintenant. Et cet été, ils vont sillonner la France. Ils vont faire leur tour de France, comme on a fait notre tour de France des solutions. Eux, ils vont faire leur tour de France de l'agroécologie.
Alors, on reviendra sur d'autres, évidemment, solutions. Alain Ducasse, vous, de votre côté aussi, vous êtes aussi créateur du Collège culinaire de France. Comment, donc, question initiale, comment cette gastronomie donc, peut changer le monde, ou en tout cas donc, l'améliorer? Comment, justement, on essaye de mettre un peu en ordre de bataille les collègues étoilés qui ont une renommée?
C'est ceux qui ont la bonne volonté de faire ensemble, et c'est le modèle de l'exemplarité. Il n'y a pas de grands chefs et des petits chefs. Il y a ceux qui ont envie de bien faire, ceux qui ont envie de se réunir, ceux qui ont envie de travailler avec des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des ramasseurs de champignons, qui ensemble ont envie d'identifier des vignerons respectueux qui vont utiliser moins de pesticides, et tout ça fait un petit groupe de 2000 personnes, et puis on sera 2500, 3000, donc on va essayer que cette communauté elle influence à la fois le consommateur, qu'ils aient envie de venir vers nous, envie d'échanger, de se croiser, de se parler, dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé. Finalement, si l'idée qu'on se retrouve autour de la même table pour partager les problèmes, c'est un acte de civilisation, je dirais presque un acte de civilité. On ne se parle plus, reparlons-nous autour de la table et faisons du bien autour de soi, allons voir nos maraîchers, ayons droit à la transparence de ce que l'on mange, on est en droit de savoir ce que l'on mange, il faut être connecté à la terre, il faut être connecté avec les individus qui font, il faut leur parler, voilà. Il ne faut pas qu'ils soient isolés en train de faire leur fromage, il faut accepter de payer un peu plus cher un meilleur produit et d'en consommer moins, de consommer mieux et moins. Mieux et moins.
Alors, vous l'avez dit dans cette émission avec Fodaï Noé, le nombre de fois où on parle du sol, cessons de ruiner notre sol, c'est la clé de l'affaire. C'est-à-dire que merci le lombric d'un côté, merci les abeilles de l'autre pour la pollinisation, et puis effectivement, faut en trouver du sol. Alors, ce que l'on voit poindre quand même, juste rappeler par exemple, si vous nous écoutez en Ile-de-France, que on va dire dans les années 50 à peu près, il y avait... Alors, on n'est pas dans un côté, c'était mieux avant, hein. c'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que l'on fait demain et comment on essaye d'améliorer les choses. Dans les années 50 à peu près, il y avait 60 à 70 jours d'autonomie alimentaire pour la région parisienne, avec moins d'habitants que les 12 millions aujourd'hui, et Paris. Aujourd'hui, on est à 4 jours, pas plus. Et encore, parce que ce sont des stocks qui sont là. Et alors, vous parlez aussi de quelque chose de très intéressant qui se trouve à Saint-Denis. Et là, vous avez rencontré donc un maraîcher, et là, on tombe un peu sur la tête. Hein. On est à 350 mètres du Stade de France, dernière ceinture maraîchère parisienne, 7 à 9 hectares. Qui avez-vous rencontré et les problèmes qui sont derrière?
Parce que... J'ai d'abord rencontré des semi-remorques qui venaient de Hollande, qui venaient planter avec des machines automatiques étrangères d'ailleurs, qui plantaient ces légumes qui étaient ramassés par des gens venus d'ailleurs, voilà, et qui repartaient ailleurs aussi, voilà. Et donc on a réussi avec Olivier Darnay, qui est un habitant de Saint-Denis, à faire classer ce terrain. Il va être au moins pour 50 ans une terre agricole.
Urbain, voilà. Oui, qui a créé urbain. Le premier, le miel de béton.
C'était exactement. Ça comme il a fait. Oui. Donc on travaille demain, on va d'ailleurs travailler dès mardi avec lui pour que la ferme du Bac-et-Louin nous aide à mettre ça en permaculture, trouver des individus pour le faire. En tout cas, c'est classé pour 50 ans et on est tout près de la ceinture parisienne et ça va produire des légumes vertueux tout proche de Paris.
Alors comment on réussit justement à classer cela? Parce que c'est ça l'idée. Donc
c'est la volonté du maire. Voilà. C'est la volonté du maire de le faire et qu'il n'était pas sous pression des constructeurs. Enfin, il était sous pression des constructeurs, mais il ne s'est pas laissé impressionner, donc il a classé, et j'ai bon espoir que c'est au moins pour 50 ans.
Alors, on voit bien que ça relève aussi donc des collectivités locales, de l'envie du citoyen que nous sommes tous. Ben, je vous propose, c'est de rejoindre un homme qui s'appelle Gilles Pérol, qui est le maire adjoint à l'éducation et à l'enfance de Montsartoux. Donc là, nous sommes dans les Alpes-Maritimes. C'est aussi le président de l'association 1 plus bio. Alors, je rappelle que Montsartoux, ça a été la première régie municipale agricole bio française. Et alors, l'actualité, c'est qu'au mois d'octobre prochain, il va y avoir la création d'un diplôme universitaire qui est celui de chef de projet en alimentation durable. Alors, ça se passe donc avec l'université Côte d'Azur. Bonjour à vous, Gilles Pérol. Quel est le but, alors ?
Bonjour, Denis. Ben, le but, c'est de former à la fois des jeunes étudiants, mais aussi en formation continue des employés, des collectivités et même des élus, à réfléchir comment on monte un projet d'alimentation durable sur son territoire, puisque tout le monde veut maintenant fournir des restaurations collectives bio et locales, mais il faut aussi pouvoir produire localement. Donc, c'est aider les gens à se former sur les enjeux et à trouver les moyens de mener ces projets sur les territoires.
Alors, qu'est-ce que l'on a au départ ? On peut rentrer avec quel niveau d'études ?
Alors, il faut avoir au minimum une licence.
Oui.
Et l'avantage de cette formation, c'est qu'elle sera en alternance entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y aura des sessions de formation sur la régie agricole de Hautecombe à Montsartoux. Et puis après, les gens repartiront sur leur territoire, d'abord pour un diagnostic, puis dans une phase suivante pour monter réellement le projet. Et quand ils auront fini leur année de formation, le territoire, la collectivité, aura son projet d'alimentation durable.
Ce qui vous a incité donc à monter ce diplôme universitaire, c'est à la fois évidemment vraiment la croissance du bio là, qui est extrêmement forte, et on sait qu'on ne peut pas répondre à la demande, et puis aussi de structurer, de professionnaliser un petit peu plus cela.
C'est permettre la dynamique sur les territoires, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire que quand on veut du local, il faut pouvoir le produire et donc il faut mettre en réseau à la fois les agriculteurs, les transformateurs, les cuisiniers, les villes, les restaurations collectives, des EHPAD ou autres, et que ces gens apprennent à travailler ensemble, à se structurer et à construire des filières d'approvisionnement.
Qui vont être les professeurs ?
Alors les professeurs, ce sont des universitaires, de différentes universités qui viendront travailler sur ce DU, et puis aussi des gens de terrain, comme moi de Montsartoux, ou comme l'association 1 plus bio que je préside, c'est-à-dire qu'à la fois des universitaires et des spécialistes, de gens qui mènent déjà des projets sur le terrain, cuisiniers, meneurs de projets, etc.
Le but d'ailleurs tout ça, c'est évidemment, c'est de manger mieux, donc ça intéresse évidemment beaucoup donc Alain Ducasse qui vous écoute, et c'est donc une fois de plus d'arriver aussi à de l'autosuffisance en collectivité.
Actuellement, on a l'habitude d'une nourriture mondialisée, hein, comme une grande part de l'économie, et c'est un non-sens en termes de respect de l'environnement. Et donc, il faut prévoir à la fois... C'est pour ça que c'est important que les techniciens des collectivités se forment à ça, parce que ça part de l'urbanisme, hein, il faut réserver des terres, ça passe à l'agriculture, et puis ça passe aussi par l'organisation des cuisines, l'organisation des échanges commerciaux. Donc voilà, c'est un projet très transversal, c'est pour ça qu'il faut se former. C'est ce qu'on a fait à Montsartoux, et on voulait vraiment essaimer ce projet, et le partenariat de l'Université d'Azur est magnifique, puisque ça, en plus, ça donnera un diplôme aux gens qui le font, et puis ça apporte ce regard des scientifiques sur notre travail et les enjeux de cette alimentation durable.
Chef de projet en alimentation durable, voilà, donc ça c'est un nouveau diplôme. Ça va absolument dans le même sens de ce que vous dites aussi, donc Alain Ducasse, et aussi, évidemment, alors là c'est pas avec le diplôme qu'on va le faire, mais éduquer les enfants au plus jeune âge.
Dès le plus jeune âge, à 3 ans, il faut qu'ils aient un radis qui ressemble à un radis, qui n'est pas passé 2 jours au frigo. On sait que dans la restauration collective, ou presque la restauration industrielle, les jours J-2, -3, ça veut dire que le steak qui est souvent trop gros, qui est souvent pas très bon, mangé et consommé le lundi midi, il est cuit au plus tard le vendredi ou le samedi. Vous imaginez bien que les qualités organoleptiques ont disparu. Toutefois, les qualités d'hygiène sont respectées. La descente en température, tout ça, il faut avouer qu'au niveau du risque alimentaire, il n'y a pas de souci. Toutefois, la qualité du produit n'est pas là, et les enfants, finalement, ne mangent pas et ça va à la poubelle. Donc, il eût mieux valu qu'ils aient un morceau de viande beaucoup plus petit, de meilleure qualité et entouré de légumes, de céréales. Il faut inverser la proportion protéines animales, protéines végétales ou légumes. Donc, il faut passer de 80-20 à 20-80. Et ainsi, on pourra donner de la meilleure qualité en moindre quantité. C'est ça l'avenir. Mais finalement, quand je pense que cela est acté, cela est en bonne route. Je pense que chaque collectivité locale, chaque municipalité, chaque maire a une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes enfants qui, et ça commence à la maternelle. Et avec Yann-Étude Bertrand, on a un projet qui s'appelle Good Planet, Fondation Good Planet, d'un terrain qui nous a, de 4 hectares qui nous a été prêté ou concédé par la mairie de Paris dans le domaine de Longchamp. On viendra en petit train électrique.
Bientôt au grand public,
qui va venir en petit train électrique depuis la Porte Maillot et 1,5 km plus tard. Et on ira voir la manière de se nourrir différemment. Ainsi, les institutrices, les professeurs, les enfants, les parents pourront venir voir que ce que l'on dit est possible puisqu'on va le démontrer. Et je pense que c'est la démonstration par la preuve qui est la meilleure école, en fait.
Là, il y a aussi un chiffre. Chez les petits, 29% des enfants de 3 ans mangent devant le petit écran. Et 29%, c'est aussi à peu près le nombre d'enfants obèses. Donc c'est, voilà. Je sais pas si on peut en tirer une voix, mais c'est quelque chose. Il y a 3 choses importantes dans la vie. La première est de manger. Les 2 autres, je ne les ai pas encore trouvées. Montesquieu.
Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they peep, you peep and you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. Tricksters out there, we just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free, you know what I mean? And we just gonna fade out.
Liar, mentir, bah dites donc. Shanice Mann, Kendra Morris et Dylan Cooper choisis. C'est un groupe marseillais, hein. Ils sont tous marseillais. Et donc choisis par Muriel Pérez, notre programmatrice.
CO2, mon amour.
Salut, bienvenue à la crêperie bretonne, Kenavo les poteaux. Alors, bah, si vous voulez, je vous propose la crêpe Larzac, la crêpe Woodstock, la Bangladesh. La Bangladesh, c'est une crêpe avec rien dessus, c'est un hommage, quoi, si tu veux. Sinon, t'as la Katmandou, elle est d'enfer. Oh, ouais, ouais. La Katmandou, on te file de l'herbe, tu te la roules toi-même, tu vois, super. 3 Katmandou, d'accord, 2 bolets de cidre et un lait de chèvre. Le lait de chèvre, il y a un petit problème, hein. Vous en aurez très très peu, étant donné que la chèvre, elle s'est barrée ce matin et je me suis démerdé avec le bouc. Hein.
sur France Inter.
Bien sûr. Alors, c'est pas la carte de Ducasse. Hein. Je crois pas que du tout, il me semble pas. Alain Ducasse avec nous, avec son ouvrage, donc Manger est un acte citoyen aux éditions des Liens qui libèrent. La France des solutions avec vous, Gilles Van Der Potten, reporter d'espoir. Et pour rester un peu dans le domaine agricole, donc une société, M2I Life Science, qui sème la zizanie chez les insectes. Autrement dit, évidemment que la pesticidation de la société, la chimisation globale, on va dire, de la société pose un très léger problème, en rappelant ce qu'on a toujours dit dans cette émission, que sans la chimie, on serait déjà tous morts, parce que les médicaments aussi en font partie. Donc voilà, on ne jette pas le bébé et l'eau du bain avec. Mais là, remplacer les pesticides par des micro-capsules de phéromones, c'est intéressant.
Oui, on a besoin.
C'est pas nouveau comme histoire, mais là, il y a une société donc qui s'y met à fond.
Tout à fait. Bah, comme souvent, on revient à des pratiques ancestrales ou anciennes. Et là, ce sont des substances émises par les insectes, hein, les phéromones, qui permettent aux mâles et aux femelles de s'identifier pour se reproduire. Et là, ce que propose cette entreprise, c'est de reproduire cela par biomimétisme. L'objectif étant de lutter contre ces nuisibles dans les cultures, en envoyant des signaux qui les empêchent de se retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit est biodégradable, que la nocivité, de fait, est réduite pour l'agriculteur, et que du côté du citoyen consommateur, il n'y a pas de résidus dans les produits, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et ils garantissent que le produit ne tue pas les insectes, mais crée juste une confusion. Donc il n'y a pas de risque ni de développement de résistance, ni d'interférer avec d'autres espèces, puisque chaque produit de biocontrôle est adapté à une espèce spécifique.
Alors, donc, ils ont aussi des stratégies. La fameuse chenille processionnaire qui emmerde absolument tout le monde, qui maintenant est remontée, elle est partie du Midi, elle est remontée partout, elle est maintenant en région parisienne, formidable. Bon, donc elle vous bouffe les pains avec un grand bonheur. Ils ont des billes de phéromones, ils ont emprunté la technique du paintball.
Hein, oui, ça c'est ludique.
Au moins ça sert à ça. Voilà, pour essayer de shooter, on va dire, les
fait dans les pins, par exemple. Ouais. Ils shootent, ils envoient des billes de phéromones qui permettent d'être très ciblés. C'est-à-dire, on atteint simplement l'arbre qui nous intéresse, qui est infesté, sans que ça se propage autour. Ouais. Donc ça, c'est des frappes, je sais pas si on dit chirurgicales, pardon d'emprunter ce...
Oui, non, parce qu'en général, j'ai toujours l'impression que ça guérit une frappe chirurgicale, alors pas du tout.
Là, pour le coup, oui.
Non, on a bien compris, mais sinon c'est un très bel oxymore. Donc avec Alain Ducasse, donc toujours aussi, parce que là on reste dans ce domaine quand même qui nous est cher, une fois de plus, si on tire le fil de l'assiette, eh bien vous avez une grande partie des problèmes de notre société. Alors une fois de plus, hein, c'est vrai que la grande difficulté, ça va être de toucher des gens qui sont pauvres. Et alors, comment on peut faire là-dessus aussi, Alain Ducasse, parce qu'évidemment, ce n'est pas ceux qui vont venir dans vos restaurants, on s'en doute bien. Vous y pensez aussi. Comment on peut les toucher ?
Non, mais il faut manger des céréales, il faut changer. La protéine animale, elle coûte cher. Elle coûte cher à produire, elle coûte cher à la planète, elle coûte cher au portefeuille. Il faut manger différemment. On peut ne pas manger. La protéine, on sait qu'elle est chère, elle n'est pas bonne, donc il faut inverser. Et vous savez, vous mangez un kilo de poireau, vous avez un kilo de poireaux ou un kilo de légumes verts et un kilo de pois chiches, vous nourrissez pour moins de 10 euros, pour moins de 1 euro à 1,50 euro par personne, vous nourrissez une famille. Donc pour 15 euros, vous allez nourrir une famille. Il faut décider. On n'est pas obligé de manger de viande. Je suis pas un supporter de ne pas en manger, mais je suis un supporter d'en manger infiniment moins et mieux. Il vaut mieux manger une volaille par mois que de manger de la mauvaise volaille toutes les semaines. Il faut quitter cette idée. Mais c'est vrai que le matraquage des publicités, l'addiction au sucré, au salé, de manger devant la télévision, être sédentaire. Et le pire, c'est là où les populations étaient nomades. Moi, j'ai un restaurant au Moyen-Orient, à Doha. L'obésité est galopante. Nous sommes à 40% d'adolescents obèses, évidemment, parce qu'ils ont quitté un mode de vie. Non, ils ont quitté un mode de vie pour être influencés par un autre mode de vie. Donc il faut réagir et il faut agir, il faut prendre conscience et décider et aider.
C'est-à-dire que la patate de canapé donc est mondialisée, quoi. C'est un peu ça. Oui, en train de se voilà. Et alors, c'est vrai que lorsque l'on parle de la viande, c'est quand même aussi un repère culturel qui est extrêmement puissant. On parlait du plat de résistance. C'est aussi un marqueur de statut social. Alors en France,
quand on était malade, on mangeait des légumes. Donc,
et voilà.
c'était il n'y a pas si longtemps.
C'est
il y a
un médicament.
Entre un quart de siècle et un demi-siècle, oui. On était obligé de manger des légumes. Là, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité pour que la planète se porte mieux et pour que chacun d'entre nous se porte mieux.
Alors, ce qui se porte très très bien aussi, c'est la traçabilité absolument opaque et l'imposture des étiquettes. Ça, vous le pointez extrêmement bien.
Gentiment, parce que sinon, on va se mettre tout le monde à dos.
Oh, pas du tout. On n'a pas de cornichons qui nous écoutent. 99% des cornichons en France viennent de l'Inde. 70% des escargots de Bourgogne viennent de Pologne, d'Ukraine, de Biélorussie, de Chine. Seuls 2% des escargots sont français. La mention de Bourgogne signifie que l'escargot était cuisiné à l'ail et au persil. Bon, la majorité des champignons de Paris, eh ben, bonjour l'Europe de l'Est, les Pays-Bas, les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Vous dites bien la majorité. Attention, il y a plein de producteurs aussi qui nous écoutent et qui les font vraiment bien.
Bon, il faut savoir ce que l'on mange. En fait, c'est l'histoire du droit à la transparence de ce que l'on consomme.
Et donc à partir de... Oui, alors le savoir, mais il y a quand même une nécessité que vous dites aussi dans cet ouvrage, c'est que c'est nécessaire d'avoir une traçabilité maintenant aussi pour... Alors les producteurs le font, mais après, dans l'agroalimentaire, et aussi d'ailleurs chez les restaurateurs. Parce que...
Oui, il faut que le restaurateur soit en mesure de raconter l'histoire de ce qu'il sert, et ainsi, ça l'oblige à connaître l'individu qu'il a cultivé, préparé. Je trouve que c'est important, et je trouve que ça recrée du lien social, ça recrée l'envie des clients de venir nous voir avec des enfants, d'aller au marché, enfin de préparer, de partager, de discuter dans ce monde où on est connecté par les nouvelles technologies. Et je pense qu'il faudrait utiliser les nouvelles technologies uniquement pour nous assister et non pas pour remplacer le lien social. Et le lien social, c'est aussi autour de la table. Et autour de la table, même si on n'est pas d'accord, avant un repas, le temps du repas, tout le monde est d'accord. Même si les tensions recommencent après le repas, mais on le voit au niveau familial,
bah oui.
On le voit au niveau des politiques. Comme je dis souvent, il m'est arrivé de mettre autour de la table des ambassadeurs de pays en guerre, c'est pas rien. Et le temps du déjeuner ou du dîner, la discussion est entamée. Ensuite, les négociations reprennent et les conflits continuent. Mais j'ai bon espoir que la table est certainement le lieu le plus civilisé de la planète où, dans ce monde qui va trop vite, on a le temps d'un repas, le temps d'échanger, de partager.
Alors, ce qui n'est pas forcément toujours civilisé, c'est quand même l'agroalimentaire. Hein. Pardonnez-moi d'y revenir, parce que vous en parlez quand même effectivement pas mal.
Comment faire avec eux.
Ben, oui, alors voilà, à côté faire avec. Mais pour arriver à avoir une transparence, de savoir ce que l'on a comme morceau, ça commence à venir. C'était pas une préoccupation il y a quelques années, mais maintenant ça y est.
Quoi. Oui, mais ça, c'est la faute de Bruxelles. C'est pour ça, pour s'opposer gentiment, il faut continuer à faire confiance à son boucher, il faut continuer à faire confiance à son volailler, continuer à faire confiance aux légumes que vous achetez, à qui vous achetez, pourquoi vous achetez dans la bonne saison, etc. Donc il faut s'opposer gentiment. On ne peut pas lutter contre Bruxelles, il faut faire avec. Donc il faut que chacun, justement, dans sa démarche citoyenne, ait son influence. Et c'est le nombre qui fera l'influence.
Pour rester aussi donc là-bas, le CETA, donc, est ce traité de libre-échange avec le Canada. Bon, on ne fera pas le TAFTA, mais enfin le CETA, c'est parti, qui est censé reconnaître nos labels de qualité et donc qui devrait permettre aux paysans français d'être enfin protégés. Et Isabelle Saporta, avec son ouvrage Du Courage, que nous avons reçu, qui intervient dans cette émission aussi.
Excellent ouvrage.
Mais oui, absolument. Donc, recitons-le chez Fayard, Du Courage, chère Isabelle Saporta. Le CETA reconnaît les indications géographiques dans son traité. Bien, mais sur les 1349 produits de terroir recensés, combien sont protégés par ce traité ? 173. C'est-à-dire à peine plus d'un dixième. Alors je ne sais pas si tous ont besoin d'être reconnus, mais voilà, on peut se demander comment justifier auprès de 90% des producteurs d'indications géographiques que l'accord ne reconnaît pas leur signe de qualité.
Et ça, il faut lutter contre ça. Voilà. Mais rien n'est irréversible, donc je pense.
À jamais.
Voilà, donc il faut.
Jamais.
On peut non, pas. Loin. À moi, l'idée de s'opposer à Bruxelles, il faut faire avec Bruxelles, mais ça ne les empêcherait pas de s'améliorer.
Voilà. Bon, mais c'est bien. Pour prononcer que comme avec les enfants, la marge de progrès.
Ah oui, bien sûr.
Ah ben c'est ça.
J'y crois.
Et alors, Gilles Van Der Potten, vous aussi, je veux dire que parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, tenez, si je suis agriculteur ou bien même là je suis en jean. Voilà, je suis en jean. Et qu'est-ce que je vois ? Eh ben, je vois aussi des gens assez formidables dans cet ouvrage, donc La France des solutions. C'est jean 1083. Alors 1083, pourquoi ? Parce que c'est la distance maximum qui existe entre une commune qui est près de Brest et donc l'autre près de Menton, donc c'est la distance maximum en France. Qu'est-ce qu'a voulu faire ce fabricant de jeans, on va dire bio ? Parce que jusqu'à présent, il faut quand même le rappeler, quand on a un jean, il a fait, si on prend tous les ingrédients qui composent un jean, on avait dit ça avec Thierry Casazian, qui était un garçon formidable à l'époque, il y a une vingtaine d'années quand on avait parlé de ça, on est entre 15 000 et 18 000 km si on prend tous les ingrédients mis bout à bout. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ?
Ben, Lui, il a voulu redynamiser déjà sa région puisqu'il se trouve à Romans-sur-Isère. C'est la patrie de la chaussure, c'est capitale de la chaussure.
Au pied du Vercors.
Voilà, c'était 2000 emplois il y a 20 ans, c'en est 300 aujourd'hui. Donc il dit, là, il y a un enjeu déjà. Et comment je peux recréer une filière textile en France, sachant qu'on a les savoir-faire, on sait tisser, on sait confectionner, on sait teindre en France. Et donc, il y a cet enjeu que vous évoquez en filigrane depuis tout à l'heure, de relocalisation, de circuits courts, donc d'écologie. Et les jeans, ils sont bio, ils sont en coton bio. Leur teinture, elle est garantie sans allergènes et sans produits cancérigènes. Elle consomme beaucoup moins d'eau parce que le jean est très consommateur d'eau. Et donc voilà, il y a une recherche d'innocuité, si je puis dire, pour l'homme et la nature. Et puis il y a un enjeu aussi de rendre attrayant ce qui ne l'est pas naturellement, ce qu'évoque Alain Ducasse dans son livre à propos de l'alimentation. Mais ça vaut aussi pour la mode. La mode, où, à une époque, les produits de mode bio-équitable, c'était pas très sexy. Lui, il a voulu les rendre sexy et abordables. Et tout ça, il l'a lancé.
Donc, c'est-à-dire que c'est très bien coupé. Voilà,
c'est très bien coupé, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est pas dans un sac à jean d'une grande marque que je ne nommerai pas, mais qu'on porte tous, ou presque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a lancé ça, c'était un pari, il a lancé ça en crowdfunding, donc en financement participatif sur Internet.
Alors, il attendait de faire, je sais pas, 100
500,
ou 2...
500 précommandes.
Oui, il en a eu combien? Je sais plus combien.
Bah là, il a 15 000. 15 000. Il a vendu 15 000 jeans. Ouais. Et alors, il y a de la marge parce qu'on achèterait 88 millions de jeans par an, nous les Français.
Joli.
Donc il y a une marge de progression assez démentielle.
Qui est pas mal. 88 millions, oui, c'est bien. J'ai vu aussi dans votre bouquin qu'on était le premier consommateur de Nutella, donc 25% pour la France. Bravo, 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 c'est du sucre et des graisses. On le rappelle aussi, mais pas que, mais enfin quand même. Alain Ducasse, il y a des choses que vous aimez beaucoup. Vous avez commencé à en parler, ce sont les légumineuses. Donc nous avons le pois chiche, nous avons la lentille. Et nous avons...
Toutes sortes... du quinoa, du chanvre, mais tout ça qui pousse, tout ça pousse parfaitement en France, tout près de Paris. Puis ça coûte rien. Voilà, ça coûte moins cher qu'un quinoa venu du Pérou. Bien que j'aime particulièrement le Pérou, même si cette plante est originaire de là-bas, elle s'est parfaitement acclimatée. Et bizarrement, les premiers planteurs de quinoa sont américains sur le territoire français.
Et moi, je vous propose d'écouter Jean-Marie Pelde qui nous parlait du quinoa. C'était il y a à peu près 2 ans.
Ce quinoa pousse en altitude sur des sols finalement pauvres, qu'on n'a pas besoin d'enrichir par des engrais parce qu'il est très rustique. C'est une plante qui pousse, disons, un peu sans un effort particulier pour la soigner.
Alors, est-ce que cette plante est venue en même temps que, enfin, ce que l'on connaît, c'est-à-dire le maïs, la tomate, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
La pomme de terre. Non, 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 elle n'est pas venue en même temps. Elle est venue dans les jardins botaniques, c'est tout. Cette plante a un petit inconvénient, c'est que ses graines contiennent des saponines. Les saponines, ce sont des substances chimiques qui font mousser l'eau. Oui. La saponaire était une plante tout à fait banale chez nous.
Pour nettoyer le linge.
Absolument, jusque tout récemment d'ailleurs, pour nettoyer le linge. Au Moyen-Âge, c'était la plante qu'on utilisait pour nettoyer le linge. Alors, pour consommer le quinoa, il faut d'abord le laver à l'eau pour que l'eau ne mousse plus. Oui. Alors, elle avait aussi un autre inconvénient, peut-être, c'est que comme elle ne contient pas de gluten, on ne peut pas faire avec la farine de quinoa du pain. Elle n'est pas panifiable. Alors, c'est deux inconvénients. Pour ces deux raisons-là, donc, il n'a au départ pas eu de succès. Et puis, il y a eu une explosion. Alors, brutale, on a un chiffre qui est tout à fait étonnant. C'est que les surfaces plantées en quinoa, en Bolivie, ont doublé entre 2005 et 2012. Vous voyez que ça montre que le quinoa est maintenant considérablement cultivé. Alors, comment est la plante ?
À quoi ressemble-t-elle ?
À de l'amarante. Vous voyez ce que c'est l'amarante ? Vous voyez un peu la tête que ça a ? Ce qui est caractéristique, d'abord les feuilles, elles sont hastées. Alors ça, c'est un terme de la botanique. Ça veut dire en forme de pointe de hallebarde, avec les deux retours. La pointe tout droit en haut et puis deux retours en bas. Et les fleurs sont toutes petites et elles forment des amas globuleux très très denses. C'est ça qui est caractéristique et c'est à ça qu'on reconnaît les amarantacées. Et des fois, les amas ne sont pas globuleux mais sont en longueur et ça donne les fameuses queues de renard. Vous savez, ça dégringole. C'est très coloré.
Pourquoi cet engouement en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce quinoa?
Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui est très riche en protéines. Elle a entre 16 et 18% de protéines, alors que les céréales classiques ont en moyenne 12%. Oui. Ça n'est pas une céréale, ça n'est pas une graminée. Le mot céréale est spécifique pour les graminées, que ce soit le mil, le sorgho, le blé, le froment, c'est la même chose. Mais le sarrasin, par exemple, c'est pas une céréale, c'est une polygonacée. Le quinoa non plus n'est pas une céréale, mais ça a les propriétés des céréales, en mieux parce qu'il y a plus de protéines. Et alors, ce qui est surtout important, c'est que ces protéines contiennent tous les acides aminés essentiels dans des proportions parfaites. Ah. Alors que les vraies céréales sont un petit peu déficitaires en un acide aminé qui s'appelle la lysine. Et que les légumineuses, alors les pois, les petits pois, les haricots, les fèves, etc., sont un peu trop pauvres en un autre acide aminé essentiel qui est la méthionine. Notre quinoa, il a les proportions les meilleures possibles, parfaitement équilibrées, entre l'ensemble des acides aminés essentiels. C'est un aliment qui est à la fois très nutritif, bien équilibré. Alors, il y a des fibres aussi, beaucoup de fibres dans le quinoa. Et ces fibres sont intéressantes parce qu'elles font fonctionner le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les mouvements de l'intestin. Elles sont anti-cholestérol, et de ce point de vue, elles sont protectrices aussi contre les effets du mauvais cholestérol. Autre avantage du quinoa, donc c'est vraiment un très bon légume, et puis on peut l'accommoder de toutes les façons possibles.
Oui, je vais vous dire comment ça se cuisine, ça.
Oh ben, comme on veut, ça peut être en salé, ça peut être en sucré, ça peut être en dessert, ça peut être en plat. Ça ressemble un petit peu au mil. C'est des petits grains blancs. Ça se s'apprêter sous toutes les formes possibles et imaginables. Voilà.
Et voilà, nous avons donc convoqué avec grand plaisir la voix de Jean-Marie Pelt, raconteur du vivant. J'allais presque dire aussi que le point commun que vous avez tous, c'est que quand on parle de choses vitales, la première carte vitale, c'est la reconnexion avec la nature, Alain Ducasse. Oui,
bien sûr, ça va changer, ça va nous changer, nous, et ça va solutionner la planète. Alors j'y crois.
Vous avez eu cette chance de jamais avoir été véritablement coupé. Votre Madeleine d'enfance à Ducasse, alors on va dire façon Proust avec sa tante Léonie qui trempait la dite Madeleine dans une infusion de tilleul à Combray.
Madeleine, c'est la ferme où je suis né en Chalosse. Il y avait de belles volailles qui couraient, qui galopaient, qui picoraient, qui mangeaient des vers. Elles étaient dodues, elles pesaient au moins 2 kg à 2,5 kg quand on les consommait. Elles allaient dans une très belle cocotte noire et elles cuisaient longuement et la peau dorée. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust. Et seule la France a une passion pour la qualité et l'excellence des volailles. Ailleurs, très souvent, le poulet est une nourriture de base. On en consomme des millions de tonnes. C'est du chicken. Voilà, dans tous les sens du terme, ce n'est pas. Et je l'ai appris à mes dépens pour l'inauguration de mon restaurant à Londres. J'avais servi du poulet et ils m'ont dit "You serve chicken." Et avec un dédain. Et j'ai appris que depuis que les excellentes volailles, il valait mieux les manger sur notre territoire.
Une autre fois, on parlera de souffrance animale. Ce sera aussi intéressant d'avoir votre point de vue. Merci à Kevin Pello, à Pauline Laverdure, à Elisabeth Scotto qui était avec nous, Camille Blanès, notre assistante, Xavier Pestugia. Patrick Deschamps, Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, on va s'intéresser à quelqu'un qui nous envoie de l'électricité gratos, le solaire. On va se faire un point sur le solaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine.